Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Aujourd'hui, dans Ni Bu Ni Connu, on prend la direction de Lansargues, tout près de Montpellier, entre les étangs, la Petite Camargue et la Grande Bleue. Bienvenue au domaine de l'Enclos de la Croix, un domaine familial entouré de murs, enraciné dans l'histoire depuis plus de deux siècles, mais franchement tourné vers l'avenir. Ici, on cultive la vigne, bien sûr, mais pas seulement. Depuis des années, le domaine a engagé un projet assez spectaculaire d'agroforesterie, des arbres, des haies, de l'ombre, de la biodiversité et une autre manière d'imaginer la viticulture face au climat qui change. Avec François Frezoul, vigneron des lieux, on va parler de vin, de transmission, de paysage, mais aussi d'un sujet très concret, planter des arbres au milieu des vignes. Est-ce que ça marche vraiment? À quoi ça sert? Est-ce que ça change le raisin, le sol, le travail, les vins? Allez, on pousse la porte de l'enclos à Lansargues pour une émission entre vignes, arbres, et Grande Bleue.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
François, avant de parler d'arbres et d'agroforesterie, est-ce que vous pouvez nous présenter le domaine L'Enclos de la Croix? Voilà, où est-ce qu'on est exactement et qu'est-ce que c'est?
Alors, on est sur la commune de Lansargues. C'est un domaine qui fait 23 hectares, qui a la particularité d'être d'un seul tenant, entièrement clos. Il a été créé en 1870 par François Gélibert, qui n'est autre que mon arrière-grand-père. Donc je suis la septième génération par rapport à lui. Et je passe la main à la fin de l'année à la huitième génération, Agathe, ma fille, qui va poursuivre le projet.
Bon, Lansargues, est-ce que d'un point de vue géographique, on est où pas vis-à-vis de Montpellier? On est sur quel terroir ici?
Alors, c'est une plaine d'alluvion, on est dans l'extrémité du delta du Rhône, donc ce sont des terres d'alluvion, argilo-calcaires, sablonneuses. Lansargues se situe à peu près à 10 minutes, un quart d'heure de Montpellier, à un quart d'heure de l'aéroport de Fréjorgues et à un quart d'heure de la gare TGV sud de France. Voilà, nous sommes entre Moguio et Lunel.
Et pas très loin des étangs et un peu plus loin de la Grande Bleue.
Nous avons cette chance, c'est-à-dire que nous sommes dans la zone Natura 2000, avec toute la zone protégée du pourtour des étangs, ce qui nous confère une biodiversité qui, à la base, est exceptionnelle, avec énormément d'espèces d'oiseaux différents.
Oui, ma question c'était, qu'est-ce que ce paysage apporte à la vigne? Mais vous venez de le résumer, biodiversité.
C'est la biodiversité, c'est le maître mot, c'est s'éloigner de la monoculture et pratiquer au maximum la biodiversité.
Merci pour cet éclairage. Alors, c'est un domaine familial, longue histoire, vous venez de le dire. Qu'est-ce que ça représente pour vous de laisser ce lieu à votre fille?
Bien d'abord, il faut se rappeler de cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Donc, je suis dans cette logique-là. Donc, la notion de propriétaire est une notion dans mon esprit très relative. Et surtout, l'objectif, c'est de transmettre à la huitième génération, sous le regard de la neuvième aussi, hein, qui a ses exigences et qui a ses points d'attention. Donc voilà, c'est ça le défi.
La neuvième, ça veut dire que peut-être que plus tard...
Je l'espère. J'espère qu'entre mes petits-neveux, mes petits-enfants, il y en a un qui se passionnera pour le sujet et qui acceptera de le porter pour la famille.
Bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas vos vins, comment vous décririez le style Enclos de la Croix?
Alors d'abord, c'est un style qui est empreint de curiosité, c'est-à-dire que vous allez trouver des cépages qui sont assez inhabituels dans cette région, puisque nous avons du Riesling, nous avons du Nero d'Avola, nous avons du Petit Mansin, nous avons du Floréal, nous avons des Merlots, des Cabernet Sauvignon, des Cabernet Franc. Donc vous voyez que par rapport aux cépages traditionnels du Languedoc, nous sommes un petit peu éloignés.
Est-ce qu'il y a une cuvée qui raconte particulièrement bien le domaine ?
Celle qui a toute mon affection aujourd'hui, c'est la cuvée zéro. Alors pourquoi la cuvée zéro ? D'abord parce que c'est le fruit d'un travail avec, dans la continuité du travail de l'INRAD Colmar, qui est l'avènement du floréal, qui est un cépage peu connu, qui est un cépage résistant, qui a l'avantage de nécessiter aucun traitement, donc ni cuivre ni soufre ne sont nécessaires à l'avènement de la vendange. Et nous avons voulu pousser la logique un petit peu plus loin, et nous avons voulu que cette parcelle de 76 arts soit faite sans énergie fossile, c'est-à-dire aucun tracteur ne rentre. Donc, vendanger à la main, tailler bien évidemment à la main et bourgeonner et pamprer à la main. Le travail sur le rang se fait avec les chevaux de labour. Nous avons, grâce à Richard, 6 comptoirs sur le domaine. L'hiver, nous mettons les brebis. Nous avons à peu près une 60aine de brebis. Et à partir du 15 mars, là où les brebis ne peuvent plus cohabiter avec les bourgeons, eh bien là, nous mettons 275 poules à peu près, qui sont les poules de Pascaleux. Ces poules vont faire un travail extraordinaire de nettoyage du sol et d'apport de fumure, comme les moutons.
J'ai eu la chance de les voir il y a quelques semaines, c'est assez impressionnant, toutes ces poules. Avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, bon, je rappelle que l'alcool est à boire avec modération, c'est dangereux pour la santé. Est-ce que votre travail sur les arbres, la biodiversité, a déjà changé quelque chose dans l'équilibre des raisins ou dans le profil des vins ?
Alors, ça serait peut-être un peu présomptueux de dire ça. Nous pensons que ça sera un facteur impactant. Ce que nous avons voulu faire, c'est que dans un souci de transmission à la génération suivante, la question de la biodiversité est une question centrale. Nous ne pouvons pas continuer à exclure des espèces à l'autel de cette productivité. Donc, nous avons considéré que si nous voulions réintroduire de la biodiversité, seul l'arbre était le moyen d'y accéder. Parce que c'est quand même l'habitat. Quand je dis arbre, c'est arbre et arbuste. Nous avons planté à ce jour, en 10 ans, à peu près 11 000 arbres et arbustes. Nous avons divisé un enclos de 23 hectares en 20 clos de 1 hectare, chaque clos étant entouré d'arbres et d'arbustes, de haies. Et là où nous pouvons affirmer quelque chose, c'est que sur le plan de la biodiversité, c'est exceptionnel. Ce retour de toutes ces espèces, de ces écureuils, ces hérissons qu'on ne voyait plus hein, à l'époque où nos 23 hectares étaient, dans les années 90, étaient désherbés, chimie de synthèse, et rien ne poussait autre que la vigne. Et il n'y avait rien à visiter autre que la vigne. Et aujourd'hui, c'est assez bluffant de voir l'évolution de toutes ces espèces qui, la nature étant extrêmement bien faite, sont revenues d'eux-mêmes et ont recolonisé l'espace. Voilà.
Donc ici, vous parlez de monoculture, ce qui m'étonne, m'interpelle, c'est qu'ici on est vraiment sur diversification, polyculture. Il n'y a pas que du vin, il n'y a pas que des vignes, même s'il y a des arbres et de l'herbe au sol et des animaux, vous faites autre chose.
Alors il faut savoir que dans les années 60, cette région, sortie du vin et sortie du raisin, nous ne faisions rien d'autre que ça. Le maraîchage est arrivé plus tard grâce à la présence et aux effets du canal du Baronne. Ce canal du Baronne a permis de sortir de la viticulture exclusive. Le maraîchage, les maraîchers sont arrivés grâce à ça. Les producteurs de fruits sont arrivés grâce à ça. Mais à l'origine, dans les années 60, sorti de la vigne, il n'y avait rien d'autre. Donc cette évolution entre 1960 et 2026, elle s'est faite progressivement. Et aujourd'hui, je dirais que la polyculture, d'abord, elle s'est développée grâce à un recul de la vigne. La vigne a reculé parce que le marché du vin est un marché qui est plus du tout ce qu'il était dans les années 60. Ça nous a un peu obligés à nous ouvrir à cette biodiversité.
Bon, le mot agroforesterie, peut faire un peu peur ou est peut-être un peu technique. Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, vous diriez quoi ?
Alors, je voudrais d'abord à ce stade-là rendre hommage à Pierre et Lydia Bourguignon, qui ont réintroduit une idée qui me paraît vraiment essentielle, qui est l'agro-sylvie pastorale, ce triptyque entre une agriculture, des arbres et des animaux. Il est évident aujourd'hui qu'ils ont raison et 100 fois raison, et on le mesure aujourd'hui. Et moi, je rends grâce à, et je ne les connais pas, hein, mais je rends grâce à ce que j'ai pu lire de leur part ou à ce que j'ai pu voir dans leurs conférences. Effectivement, le Viti Sylvie Pastoral, en ce qui nous concerne, est devenu un triptyque d'équilibre. L'arbre, il est indispensable. Il est indispensable. Alors, on peut dire qu'il permet de créer, de produire de l'oxygène, mais c'est pas tant ça. Il va être un formidable habitat pour les animaux. Il va être une ressource aussi en termes de biomasse, parce que on a deux défis, la biodiversité et puis la biomasse. Si nous produisons des biomasses très très faibles, nous appauvrissons nos sols. Alors que si nous arrivons à avoir une biomasse croissante, à ce moment-là, nous enrichissons nos sols. Donc, cette agroforesterie, elle est indispensable, et elle trouve toute sa logique, bien que parfois ce soit difficile de les faire cohabiter ensemble. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un troupeau de brebis autour d'un arbre. Hein. L'arbre est menacé de fait. Mais c'est indispensable d'arriver à conjuguer ces trois facteurs. Voilà, et donc c'est ça notre ambition. Et aujourd'hui, sur les 23 hectares, nous avons, je dirais, que 8 hectares et demi de vignes, c'est-à-dire que nous produisons à peu près 50 000 bouteilles par an, mais c'est des micro-cuvées, c'est des cuvées très travaillées où on cherche à aller vers cette excellence. Et je pense que il est important que ces 8 hectares et demi de vignes se trouvent dans un environnement plein de biodiversité, avec des prairies, avec des potagers, avec un tas d'autres choses qui vont assurer justement cette richesse.
Alors le déclic, il est arrivé quand ? Quand est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut remettre des arbres dans les vignes ?
Alors c'est amusant, il est arrivé il y a à peu près 20 ans, quand j'ai commencé à interroger mes neveux et nièces et enfants, en leur disant « alors ça vous intéresse ce domaine ? Qui se sent de prendre la suite ?» La réponse a été unanime, ça a été dire non, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas de vie dans cet endroit. Il y a de la vigne, mais il n'y a pas de vie. Et là, j'ai réalisé que on ne pouvait pas construire un projet uniquement sur une approche viticole et qu'il fallait absolument élargir la réflexion. Et la réflexion, aujourd'hui, nous l'élargissons au-delà de la question de l'agroforesterie. La question que nous devons nous poser aussi, c'est quel est le rôle sociétal d'un domaine comme celui-ci ? C'est-à-dire, un domaine comme l'Enclos de la Croix, c'est pas compliqué. Le village de Lansargues, 3200 habitants, ça représente un ballon de rugby nord-sud. Et si vous regardez sur Google Maps, vous verrez que l'Enclos de la Croix, il représente le quart sud-est du domaine. Et vous pouvez pas faire fi de cet aspect-là. Et automatiquement, la question de se dire, mais comment on ouvre le lieu aux gens de Lansargues, à l'éducation des enfants, au monde du handicap? Et à ce moment-là, vous donnez une autre dimension à votre projet et vous lui donnez du sens. Donc l'agroforesterie, ce n'est qu'un maillon par rapport à une réflexion beaucoup plus globale.
Là, en arrivant où vous m'avez accueilli, donc on est tout au bout à Le Livret, à une salle de réception on ne peut plus classique, bien que très jolie. Il y a beaucoup d'enfants là qui gambadent. D'où viennent-ils? Pourquoi ils sont là?
Eh bien, nous accueillons tous les mois des classes vertes d'enfants qui viennent apprendre à planter des arbres, qui viennent découvrir que les salades ne poussent pas dans les arbres, qui viennent s'intéresser. Et il y a une attente de leur part qui est extraordinaire. Et donc, c'est les écoles de Dalzon, c'est le collège de Moggio, c'est des écoles en région parisienne, c'est l'école Sainte-Florence à Palavas. Qui nous demande, et on répond quand on le peut positivement, et on les accueille pendant une journée et on leur fait découvrir. Je vais vous donner un exemple amusant. Tout à l'heure, je leur ai fait découvrir l'importance de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est caractérisé par Richard, qui dirige son troupeau de moutons et qui a un bordeur collé, et qui a démontré aux enfants qu'à la voix, sans crier, sans forcer, il a... En dialoguant avec son chien, il a déplacé 60 brebis pour les mettre exactement là où il voulait. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que l'obéissance peut être une vertu, parce que le chien n'a qu'une idée, c'est de satisfaire son maître, c'est de comprendre ce qu'il veut, il lui fait une confiance absolue, il a confiance dans ses ordres. C'est étonnant, et voilà un sujet pédagogique, c'est-à-dire que l'obéissance n'est pas une contrainte. L'obéissance peut être aussi une vertu. Et là, on le démontre quand on voit le berger avec son border collé qui déplace son troupeau. Voilà, c'est ça aussi L'agriculture de demain, c'est une agriculture de partage, une agriculture ouverte à la société, où on arrêtera de penser que les agriculteurs sont des pollueurs, consommateurs d'eau, etc., etc.
Bon, concrètement, qu'est-ce que vous avez planté au domaine ? Bon, j'ai vu des arbres fruitiers, des haies, des arbustes, mais voilà, est-ce que peut-être vous pourriez nous parler des essences et puis avec les vignes, est-ce qu'ils s'accommodent bien ?
Alors, c'est une question auquel nous n'avons pas répondu en totalité. Ce que nous avons choisi, c'est que nous avons choisi 68 espèces d'arbres et d'arbustes avec des objectifs bien précis. Entre autres, nous cherchons à avoir des arbres mellifères pour favoriser le développement d'abeilles et d'insectes. Nous voulons aussi des arbres qui soient des arbres de prédilection pour certaines espèces que nous espérons bien voir revenir. La chauve-souris, par exemple, vous plantez un cormier, le cormier est l'arbre rêvé de la chauve-souris. Nous avons aussi des arbres qui sont des arbres qu'on appelle fourragés, qui vont nous permettre de faire la soudure entre le 15 août et le 15 septembre, quand on a des prairies qui sont plus très vertes. Eh bien, on va couper des branches basses de nos arbres fourragés, comme le février d'Amérique par exemple, où les brebis ont une grande appétence pour ce type de plantes. Voilà, on va avoir des arbres fruitiers, on va avoir des arbres, on a beaucoup d'oliviers, on a beaucoup de grenadiers, on a, voilà. Avec le changement climatique, on a créé un conservatoire d'agrumes, donc nous testons avec certains pépiniéristes, une trentaine d'espèces d'agrumes différentes. Parce que demain, nous pensons que l'agrume aura toute sa place dans nos régions. Voilà. Donc 68 espèces d'arbres. Alors la particularité de nos arbres, c'est que nous avons opté pour la majorité de ces arbres pour une production de proximité. C'est ce qu'on appelle le végétal local qui fait l'objet d'un label. Et nous avons un homme et une femme qui se sont passionnés pour ce projet-là, qui sont Olivier et Bérangère, qui ont créé sur le domaine une pépinière d'arbres tous issus de graines qui ont été collectées dans un rayon de 50 km autour du domaine. Donc c'est ce qu'on appelle du végétal local. Et bien évidemment, quand on replante un arbre et qu'il a été initié d'une graine locale et qui dès son début s'est adapté à la nature de nos sols, avec le pH de nos sols, etc., bien évidemment le taux de reprise il est de 98%, ce qui est exceptionnel quand on plante 1000 arbres et qu'on se dit qu'il y en a 998 qui grandiront, en tout cas qui passeront le cap difficile des trois premières années. Voilà, c'est une satisfaction.
Bon, et d'un point de vue purement, on va dire, un peu plus théorique, quels sont les avantages de remettre les arbres au milieu des cultures ? Qu'est-ce que ça apporte finalement à la culture de la plante en question, comme la vigne ?
Alors déjà, beaucoup de végétaux aujourd'hui souffrent du soleil, de la dureté du soleil. Donc à partir du moment où on peut les ombrager, c'est toujours préférable. Et deuxièmement, je rappelle qu'à l'époque des Romains, les piquets en galvan n'existaient pas, les fils n'existaient pas, donc le palissage n'existait pas. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On plantait une vigne au pied d'un arbre et on se servait de l'arbre comme tuteur. La vigne est une liane. Cette liane, elle cherche la lumière et elle va ainsi se servir de l'arbre pour aller chercher cette lumière. Donc l'arbre, il a une fonction par rapport à la vigne, qui est une fonction de tout temps, je dirais.
Et en termes d'apport en matière organique, ce genre de choses ?
Eh bien, on sait que le système racinaire de l'arbre va accueillir énormément d'espèces animales, voire de champignons en tout genre, et que, évidemment, la proximité de l'arbre et de la vigne va permettre à la vigne de se trouver enrichie de tout ce qui habite l'arbre dans son sol et dans son sous-sol.
Ça, c'est hyper intéressant. On va parler maintenant peut-être un petit peu des résultats. Juste quelques difficultés, parce que j'imagine que planter 11 000 arbres quand même depuis 20 ans, vous avez dû en avoir des petites galères. Est-ce que vous pouvez nous en raconter une ou deux anecdotes ?
Alors d'abord, la tentation, c'est toujours de planter des grands arbres, parce qu'on voit le résultat tout de suite. Et l'allée centrale, nous avons planté 120 cormiers qui faisaient tous 4 mètres de haut. On était très fiers de ça. C'était en 2014. Voilà. Alors, que reste-t-il de tous ces arbres en 2026, c'est-à-dire 12 ans plus tard, eh bien, il n'en reste pas un.
Oui, bel échec pour le coup.
Voilà. Alors, l'échec, quand il est fait à une échelle raisonnable, là, c'était une échelle déraisonnable. Mais quand il est fait à une échelle raisonnable, l'échec, c'est le passage obligé vers le succès. C'est une somme d'échecs qui font qu'à un moment donné, on réussit quelque chose. Donc, on doit l'accepter. Si j'avais été un peu plus sage à l'époque, je n'en aurais planté qu'une dizaine. Depuis, nous plantons que des plants forestiers. C'est-à-dire que ce sont des plants qui n'excèdent pas 50 cm de haut. Et aujourd'hui, les plants que nous avons plantés qui faisaient 50 cm de haut en 2014 sont des arbres qui font 7-8 mètres.
D'accord. Ce sont les plus hauts de la propriété ou il y a...
Non, les plus hauts de la propriété. D'abord, ce sont les platanes que François Gélibert a plantés dans la cour. Ils ont 216 ans aujourd'hui. Ils sont magnifiques. Et c'est lui qui nous a montré la voie. Parce que lui, quand il a planté ses platanes, il était à quelques années de la fin de sa vie et il ne s'est pas posé la question de savoir si c'est lui qui ferait la sieste à l'ombre de ses arbres. Il les a plantés justement en visionnaire et il nous invite aujourd'hui à en faire de même et à planter à notre tour des arbres en visionnaire en disant, ben voilà, c'est pour les 7 générations suivantes.
Donc dans combien d'années on pourra se dire, on marche dans toutes les allées des vignes, dans les rangs, avec de l'ombre partout?
Je dirais que vous commencerez à avoir des résultats au bout de 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire que les arbres qu'on a commencé à planter en 2014, là on commence à avoir des résultats où on se dit à chaque printemps, waouh, qu'est-ce que c'est chouette.
Par exemple, plus d'oiseaux, plus d'insectes?
Bien sûr, bien sûr. On fait des comptages d'oiseaux régulièrement. On s'est fait aider à l'époque par la fondation de la Tour du Valat, qui sont des spécialistes en ornithologie en milieu humide. Voilà, on est passé d'une trentaine d'espèces à aujourd'hui un peu plus de 50. Et on sait qu'on pourra prétendre être un spot ornithologique, comme ils disent, à 65-68 espèces. Donc on n'est pas loin. Donc voilà, continuons.
Ah, c'est pas mal du tout. Comment vous faites pour travailler avec des indicateurs pour mesurer si le projet fonctionne? Donc là, il y a le comptage avec des organisations spécialisées, mais vous avez vous-même vos propres référentiels?
Alors, oui, on a notre propre référentiel et c'est un référentiel que nous partageons. Je vous ai dit tout à l'heure, ce lieu, il est ouvert à tous les visiteurs qui veulent venir promener leurs enfants, qui veulent venir entre amis, promener leurs chiens, faire leur jogging. Voilà, l'autre jour, j'ai rencontré un couple de personnes âgées qui me disent « Ah oui, nous, on vient faire notre marche ici » parce que vous comprenez, le docteur Ponzo, qui est le docteur de Lansargues, nous a dit qu'il fallait qu'on fasse 6000 pas par jour. Donc, tant qu'à faire, on vient les faire à l'enclos. Et ça, c'est formidable pour nous. Alors, quel est pour répondre à votre question, quel est le retour? Eh bien, tout simplement, on a dit à ces gens-là, ben voilà, on a un logiciel gratuit, si vous voulez bien le télécharger, ça s'appelle iNaturalis. On l'a paramétré, et à chaque fois que vous voyez une espèce, un animal, ou vous entendez un oiseau, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le photographier, et d'abord, ça vous apprendra quelle espèce vous croisez, et si vous appuyez sur cette fonction, ça rentrera dans la base de données. Et aujourd'hui, grâce à tous ces gens-là qui viennent visiter le domaine, eh bien, tous les jours, on mesure que la biodiversité est en marche à l'enclos. Et ça, c'est pour nous un moyen de mesurer de façon factuelle. Je vous donnerai un exemple. On mesure 25 photos de hérissons sur le domaine. Moi, j'en ai pas pris une seule de photo. D'abord, j'en ai pas croisé. Mais les gens qui se baladent ont croisé 25 photos et ont fait 25 photos de hérissons. Et comme l'intelligence artificielle est là, le logiciel nous dit, bon, j'ai bien 25 photos dans la banque de données, mais en fait, vous n'avez que 11 hérissons. Parce que celui-là, celui-là et celui-là, c'est les mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, là encore, par une démarche commune le collectif, on arrive à avoir des réponses très précises et très concrètes à des questions essentielles qui sont, au fait, on parle de biodiversité, mais on est passé de l'étape 1 à l'étape 3 où on est déjà à l'étape 10 et sur une échelle de combien? Voilà.
Assez impressionnant, bravo. Bon, on va terminer avec la viticulture de demain, le vin de demain plutôt, je préfère ça. Ce sont des questions que je pose assez souvent sur le terrain au domaine viticole parce que on est en pleine crise et vous devez le savoir. Quel est votre regard d'ailleurs sur cette crise et sur le vin aujourd'hui en France et dans le monde?
Eh bien, d'abord, effectivement, la consommation de vin a baissé. Mais le consommateur est un consommateur de plus en plus avisé de plus en plus compétent dans son jugement, avec un jugement de plus en plus affûté. Et donc, on voit bien, hein, une belle cuvée, elle se vend toute seule. Un vin un peu moyen, ça traîne. Il n'y a pas de mystère. Mais dès qu'on arrive à faire une belle cuvée, c'est pour ça que nous ici, notre objectif, c'est de plus en plus faire des micro-cuvées. Nous avons sur 8 hectares et demi, nous faisons 14 cuvées différentes. C'est vous dire, mais certaines cuvées font 1250 bouteilles, c'est-à-dire 10 hectos. Mais 10 hectos, on n'est plus dans la vinification, on est dans la cuisine. On est dans un travail de précision où les pigeages sont mesurés, où on sent les choses, où on touche les choses, où on est... Face à une cuve de 250 hectos ou face à un cuvon de 10 hectos, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas les mêmes enjeux et c'est pas les mêmes incertitudes. Donc ça déjà c'est un premier point, c'est-à-dire aller vers des petites cuvées. Après pour moi le vin idéal c'est le vin qui sera le moins impactant sur l'environnement. Et comme l'impact il est à la fois sur la façon dont on cultive le raisin, la façon dont on fait le vin, mais aussi la façon dont on le conditionne. Je ferai juste une petite remarque, nous sommes des grands défenseurs du projet Hoc Consigne sur la région, qui est arrêtons de casser les bouteilles. Est-ce que quand j'ai fini de boire mon verre, je casse mon verre? Non. Donc arrêtons de casser les bouteilles et soyons militants pour que nos bouteilles aient une seconde vie, plus une troisième, plus une quatrième et une neuvième.
Oui, nous étions allés à la rencontre de l'équipe de Sophie dans leur nouvel espace à Latte, juste à côté de Montpellier.
À côté de la gare TGV, à côté de la gare TGV. Oui.
Et avant, ils étaient chez vous, c'est vous qui les avez accueillis la première fois.
Et c'est une équipe formidable, qui porte un projet formidable, et il faut les soutenir sans réserve. Mais là maintenant, nous on a fait tout ce qu'il fallait, on a changé nos papiers d'étiquette, on a changé l'école, on a pris des bouteilles avec des grammages plus importants, on a négocié avec les douanes de ne pas avoir à mettre les capsules congé, on collecte les bouteilles, mais encore faut-il que le consommateur nous les ramène. Donc là maintenant, c'est à vous, consommateur, c'est à vous de jouer. Et c'est vous qui pouvez changer le monde. Nous, on a fait ce qu'on pouvait.
Et ben en tout cas, François, merci beaucoup de nous avoir accueillis à l'Enclos de la Croix. Merci pour cette belle visite. Désolé dans le fond pour les bruits d'enfants qui sont juste derrière nous. On espère que ça passera à l'antenne. À bientôt en tout cas. Merci François.
Merci, merci à toi.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.